Bonjour, frère. Bienvenue au service. Je suis heureux de vous voir tous. Nous allons commencer tout de suite le message d'aujourd'hui, en passant paragraphe une porte dérobée et en vous ramenant à une époque lointaine, très lointaine. Quand vous étiez jeune, eh bien, je suppose que selon l'âge de la personne, c'était il y a longtemps, mais plus vous êtes âgé, plus c'était il y a longtemps. Imaginons cela dans notre tête. Tu es sur le point d'entrer au lycée. Je vais vous donner la version canadienne. Mais vous êtes sur le point d'entrer au lycée. Pour moi, sortir de la huitième année et entrer dans une école secondaire, c'était un grand changement. Je suis passé d'une petite ville à une ville et j'étais sur le point d'entrer au lycée. Quand on s'inscrit à l'école pendant l'été, on commence à suivre des cours, on doit choisir l'orientation du reste de sa vie quand on est en huitième année. Au Canada, c'est similaire, je pense, ici en Amérique aussi, mais au Canada, à l'époque, il y avait 13 années d'études secondaires. Il y avait donc de la neuvième à la douzième année, plus ce que nous appelions le CPO ou la 13e année. Mais il y avait aussi la voie de base, la voie normale, puis la voie avancée tout au long du lycée. Si vous vouliez aller à l'université, vous deviez suivre la filière avancée et aller à l'OAC, la 13e année. Si vous choisissiez l'une des deux autres voies, vous étiez bloqué ou vous deviez faire quelque chose de spécial pour y arriver. Donc, à la 8e année, quel que soit l'âge, 12 ou 13 ans, j'ai dû décider de ma carrière, ce qui est insensé, mais c'est ainsi que le système scolaire a fonctionné. Je devais réfléchir à ce que serait mon travail, à ce que j'espérais si je voulais aller à l'université, si je voulais me lancer dans une vocation. Quoi qu'il en soit, j'ai pris cette décision avant d'être vraiment équipé pour la prendre. Dans la société moderne, c'est ce que vous faites. Dans certains pays, vous travaillez sur votre parcours professionnel alors que vous êtes encore plus jeune. Si vous allez en Chine ou dans d'autres pays, notamment asiatiques, vous pensez à votre emploi, à votre carrière, pendant de nombreuses années avant qu'il ne vous semble que vous devriez le faire, mais en fin de compte, vous passez par ce processus. La vie prend des tours et des détours. Je voulais faire de l'informatique et on m'a convaincu de faire de l'ingénierie, puis j'ai fini par revenir à l'informatique. Votre vie prend différentes directions, mais vous finissez par décrocher ce travail. Vous tombez sur un travail pour lequel toutes les études, la formation, les stages ou d'autres aspects que vous faites pour vous préparer à ce travail, quel qu'il soit, vous permettent d'obtenir ce travail. Passons à Éphésiens 4. Commençons ici. Éphésiens, chapitre 4. Commencez au verset 1. Éphésiens 4 et verset 1. On y lit, moi donc, le prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Vous et moi avons plus d'un métier, n'est-ce pas? En tant que chrétien, peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, convertis ou non, en tant que personnes essayant de vivre ce mode de vie, nous avons par défaut un deuxième travail. Ainsi, le mot vocation signifie travail, mais si l'on se penche vraiment sur le grec, il signifie appel. Il s'agit donc d'un travail différent, plus profond. Si vous travaillez chez McDonald's, vous ne dites pas, c'est mon appel d'être caissier chez McDonald's. Non, cela ne vous vient jamais à l'esprit. C'est un salaire. Mais si vous êtes infirmière, médecin ou pasteur, tous ces différents types de carrières dans lesquelles vous devez vous plonger profondément, vous pourriez dire, oh, c'est mon appel dans la vie. En tant que chrétien, c'est ainsi que nous devrions envisager de vivre le christianisme. Nous devrions le considérer comme notre appel dans la vie, même si nous sommes ingénieurs, médecin, commerçant ou autre. C'est vraiment notre travail le plus sérieux. Revenons au chapitre 9 de l'Ecclésiaste pour préparer ce message. Ecclésiaste, chapitre 9. Nous allons relire un seul verset, comme nous l'avons fait pour l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 9 et verset 10, où ce sera le verset 10. Vous le connaissez bien. Les deux sont familiers. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces car il n'y a ni travail, ni artifice, ni science, ni sagesse dans la tombe où nous allons. Nous allons tous mourir. Dieu dit donc que vous avez cet appel, cette vocation, et en même temps, il est dit dans l'Ecclésiaste, tout ce que notre main trouve à faire, nous devons le faire de toutes nos forces, parce que nous n'avons qu'un temps limité pour le faire. Ce verset peut s'appliquer au travail que vous avez dans le monde, mais il peut aussi s'appliquer au travail que vous avez à faire en tant que chrétien. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de toutes nos forces. Parce que, comme pour un travail, une fois que vous avez terminé, vous mourrez. On n'est plus charpentier ou électricien. En tant que chrétien, nous n'avons que le temps de mourir, ou dans notre cas, lorsque Christ abrège notre vie, nous avons donc moins de temps qu'une vie pour être prêt pour le royaume de Dieu. Nous avons donc moins de temps qu'une vie pour être prêt pour le royaume de Dieu. Alors oui, nous devons mettre la main à la charrue et le faire de toutes nos forces. Voilà donc quelques éléments de base. Mais quel est notre travail? Qu'est-ce que c'est? À quoi sommes-nous censés travailler? Les grammairiens dans l'auditoire, oh, une préposition à la fin de la phrase. Non. Quel est le travail que nous devrions faire? Le travail pour lequel nous devrions travailler? Qu'est-ce que c'est? Que dit la Bible à ce sujet? Et de quoi faisons-nous partie? La Bible parle beaucoup du travail. Elle en est pleine, de la Genèse à l'Apocalypse. Le travail, le travail, le travail. On le voit partout. Et il y en a de différentes sortes. On peut parler de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire du travail qu'il accomplit réellement, ou de l'œuvre du Christ, du travail qu'il accomplit réellement, ou de l'œuvre de Dieu, du travail tel que nous le voyons. L'œuvre de Dieu, c'est le travail, où nous pouvons parler de notre travail personnel et de notre responsabilité. Rappelez-vous, notre vocation. Cet après-midi, nous allons donc examiner ces types de travail et nous demander quel est notre rôle, à chacun d'entre nous, dans l'accomplissement de ce travail. Quel est notre rôle? Mais que dit la Bible au sujet du travail? Il y a tant d'exemples, mais commençons par le début. Allons au chapitre 2 de la Genèse. Je viens de me rendre compte que le dos de ma Bible s'est déchiré, alors le travail se fera avec du ruban adhésif ce soir. Genèse, chapitre 2, et nous commencerons au verset 8. Genèse 2, verset 8. Le verset 8 dit, l'Éternel planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. De l'arbre de vie, il y avait aussi, au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa et devint quadruple. Et en continuant ici et en sautant vers le bas, nous irons au verset 13. Le nom du second fleuve est Géon, et il entoure tout le pays d'Éthiopie. Le nom du troisième fleuve est Tidècle. C'est celui qui se dirige vers l'Orient, vers la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Ce sont donc les quatre fleuves qui sortent. Puis le Seigneur a pris l'homme. Nous avons donc créé ce grand jardin, nous y avons mis les hommes, puis finalement une femme. Ces fleuves s'écoulaient. Dieu a fait des efforts. N'oubliez pas que cela se passe littéralement juste après la semaine de la création. Dieu a donc passé une semaine à travailler. Je ne sais pas ce qu'est le travail pour Dieu. C'est un concept fascinant. Il ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais. Comment peut-on être capable de fournir des efforts quand on ne se fatigue pas ou qu'on ne se lasse pas? On ne peut jamais comprendre pleinement la nature de Dieu tant qu'on n'est pas Dieu, mais il comprend l'importance du travail parce qu'il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin, et il a dit « Mettez-vous au travail ». C'est essentiellement ce qu'il a dit. Il a dit de l'habiller et de le garder, donc de le construire et de l'entretenir. Alors, même si Adam venait de commencer à être un être humain, il a dit « Nous avons le sabbat pour nous reposer ». Alors dès que c'était fini, il fallait se mettre au travail. Il y a des tâches à accomplir dans le jardin. J'ai des choses que je veux que vous accomplissiez dès le départ. Allons à Exode 30. Voyons quelques exemples de travail. Cela nous aide à cadrer les choses. C'est un sujet tellement important pour Dieu. Exode, chapitre 30. Nous commencerons au tout début d'Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Voici, j'ai appelé du nom de Betsalil, fils d'Uri, fils d'Ur, et de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » C'est le contexte ici. Ils construisent le temple, ils font l'artisanat nécessaire à la construction du temple. Si vous parcourez la description du temple, vous verrez qu'elle est très détaillée, très complexe et très élaborée. Et d'une certaine manière, on ne peut pas simplement l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas avec lui. Je l'ai donc rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence et en connaissance, et en toutes sortes d'œuvres de travail pour concevoir des ruses. Ce qui est une traduction terrible, signifie artistique, pour concevoir des œuvres artistiques. Je veux que des travaux soient édifiés pour ce temple. Je lui donne les compétences, mais j'ai un travail à lui confier. C'est le modèle que nous verrons tout au long de notre lecture des Écritures. Chacun de nous a un travail à faire. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, si nous faisons notre travail, et si nous faisons le travail dont nous faisons partie. Verset 5. Tailler des pierres, les enchâsser, et tailler du bois. On pourrait terminer le verset 4, où il est dit, le travail de l'or, de l'argent et de l'airain. Et enfin la fin du verset 5, et de travailler à toutes sortes d'ouvrages. Il avait tant à faire, mais Dieu lui a donné les compétences nécessaires pour y parvenir. Mais encore une fois, l'effort, l'énergie, le travail. Je reviens toujours aux Écritures dont nous avons parlé dès le début de ce message. Nous avons reçu une vocation, un travail, un appel. Que le moment où nous avons dit, « Vous savez quoi ? Il y a quelque chose dans ce que j'apprends dans cette littérature, je lis dans la Bible, quand nous étions appelés à notre appel, si vous voulez, que nous avons dit, « Bien, j'accepte le travail. » Je signe le contrat. Au baptême, nous avons signé le contrat selon lequel le sang de Jésus-Christ nous permettait d'obtenir le pardon de nos péchés. Lorsque nous avons signé ce contrat, nous avons signé un contrat à vie pour notre travail. Il n'était pas possible de faire marche arrière. Les gens pensent qu'ils peuvent faire marche arrière. Si quelqu'un quitte la voie de Dieu, quitte l'Église, et qu'il a été baptisé et a reçu l'Esprit de Dieu, c'est un territoire dangereux parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. Dans la plupart des emplois, même avec un contrat solide, on peut s'en défaire. Cela peut avoir un coût, mais Dieu dit, « Non, non, vous ne pouvez pas vous défaire de ce contrat. Et si vous ne remplissez pas vos obligations dans le cadre de ce contrat, c'est le châtiment éternel. Mais, bien sûr, nous servons un Dieu miséricordieux qui pardonne et laisse les gens grandir, se développer et trébucher. Ce n'est donc pas une question de faire ou de mourir pour l'instant, mais nous arriverons à un moment où, encore une fois, quoi que nous fassions, nous devrons le faire de toutes nos forces. Passons au chapitre 6 des Proverbes. Repérons ces exemples de travail, Proverbe 6. Proverbe, chapitre 6, et commençons au verset 6. Le verset 6 dit, « Va à la fourmi, paresseux, considère. » Signifie voir, donc littéralement l'hébreu est voir. Si nous arrivons au printemps, vous commencerez à voir des fourmis. La Bible nous dit donc, va les voir, regarde-les. Cela peut être au sens propre ou au sens figuré, mais il s'agit d'une fourmi, donc c'est au sens propre. Va vers la fourmi, espèce de paresseux. Va voir ses voies et deviens sage. C'est un verset étonnant. Je crois que j'ai déjà parlé de ce verset, mais je suis toujours enthousiaste quand je le lis. Va vers la fourmi et vois ses voies. Il parle de fourmis femelles parce que toutes les fourmis ouvrières sont des fourmis femelles et qu'à l'époque où le proverbe a été écrit, personne n'avait une loupe pour observer la fourmi et déterminer son sexe. Dieu a donc inspiré ce proverbe pour y inclure un détail qu'il aurait été impossible de connaître à l'époque. C'est incroyable. Mais je m'éloignais du sujet. Verset 7, la fourmi qui n'a ni guide, ni surveillant, ni chef, fournit sa nourriture pendant l'été et la recueille pendant la moisson. Donc la fourmi, sans guide, ni surveillant, ni chef, toute seule, programmée par l'instinct, bien sûr, mais qui fait le travail qu'on lui demande, alors il y a de la nourriture. Ils sont capables de continuer à produire, ce qui permet à la colonie de s'agrandir. Et il revient sur le contraste avec le paresseux, jusqu'à quand dormiras-tu, paresseux? Quand sortiras-tu de ton sommeil? Ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un repli des mains pour dormir. On l'imagine bien allongé, se reposant au beau soleil alors que le travail à faire n'est pas fait. Non, Dieu dit, tout ce que ta main trouvera à faire. Et au verset 11, ta pauvreté sera comme celle d'une femme qui souffre. Tout à coup, boum, c'est l'heure des récoltes, ou tout à coup, elles pourrissent. Tu n'as pas ce qu'il te faut parce que tu n'as pas fait ce qui est simple, comme la fourmi. Tu n'as pas travaillé. Un autre proverbe, Proverbe 12. Proverbe 12, il y a un verset ici, le verset 11. Proverbe 12, verset 11. Encore une fois, juste un peu de repérage, nous pourrions aller, nous pourrions passer les 75 minutes du sermon dans les seuls proverbes à regarder les versets sur le travail. Il y en a tellement, mais je voulais en trouver différents pour poser un peu ce cadre. Le verset 11 de Proverbe 12 dit, « Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain. S'il fait le travail, il aura du pain, il aura de la nourriture. » Mais celui qui suit des personnes vaines. Les gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui font des choses qui n'ont pas de sens, ou qui ne servent qu'eux-mêmes. Celui qui suit des personnes vaines est dépourvu d'intelligence, car il n'aura pas de nourriture. En remontant la première partie de ce verset, il ne fait pas le travail qu'on attend de lui pour pouvoir s'acquitter d'obtenir du pain. Bien, passons au Nouveau Testament. Bien sûr, rien ne change entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, 2 Thessaloniciens. Quelques autres ici. Quelques exemples du Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Chapitre 3, et verset, nous commencerons au verset 9. Donc, 2 Thessaloniciens, le 9 se lit, Ce n'est pas que nous soyons sans force, mais c'est pour vous servir d'exemple. Paul utilise dans ce contexte, il travaillait sous des tentes et diverses autres choses, mais pour vous servir d'exemple, un type, pour que vous nous suiviez. Car, lorsque nous étions avec vous, nous vous prescrivions que, si quelqu'un ne voulait pas travailler, si quelqu'un ne voulait pas faire l'effort, travailler, il ne mangerait pas non plus. C'est un verset que nous utilisons pour la retraite. Certaines personnes, nous ne prenons pas de retraite dans l'Église de Dieu, surtout dans le ministère, mais nous ne prenons pas de retraite dans l'Église de Dieu. Il y a des exceptions si vous avez des problèmes de santé ou autres, et quand vous vieillissez, vous devez ralentir. Le travail que vous faites à 25 ans n'est pas celui que vous faites à 70 jours, bien sûr, mais les chrétiens travaillent toujours tous les jours, sauf le sabbat. On travaille pendant 7 jours. En continuant ici, si vous ne voulez pas travailler, alors ne mangez pas. Car nous apprenons qu'il y en a qui marchent parmi vous d'une manière désordonnée, sans travailler du tout. C'est ce qui arrive quand quelqu'un ne travaille pas, ils ne sont pas occupés à faire les choses qu'ils devraient faire, ne travaillant pas du tout, mais ils sont occupés. Ils travaillent à quelque chose. Ils font des choses. Les gens font des choses. La plupart du temps, ils ne restent pas assis sans rien faire. Non, ce qui finit par arriver, c'est que, parce que notre esprit n'est pas concentré sur un effort que nous devrions faire, nous commençons à nous engager dans des choses que nous ne devrions pas faire. C'est la nature humaine. Ils sont occupés. Or, ce que nous commandons et exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, que dans le calme. C'est une très belle version du King James. Donc, avec calme, ou, si c'est nous, nous dirions, ils doivent se taire et aller faire leur travail pour pouvoir manger. Donc la belle version du King James, c'est, avec tranquillité, ils travaillent et mangent leur propre pain. Non, il faut juste qu'ils se taisent, qu'ils trouvent un travail et qu'ils travaillent, et qu'ils arrêtent de s'occuper. Colossiens, chapitre 3, la Bible dit beaucoup de choses. Nouveau Testament, Ancien Testament, la fourmi, il y a divers aspects, travailler pour manger, ainsi de suite, partout dans la Bible. Et ce n'est qu'un tout petit échantillon de versets qui parlent du travail. Colossiens chapitre 3 et verset 22, à partir de 22. Colossiens 3, 22, serviteur. Esclave qui pourrait aussi signifier, obéissez en toutes choses à vos maîtres, en toutes choses, selon la chair, non pas avec un service des yeux, comme des hommes complaisants, mais dans la simplicité du cœur, dans la crainte de Dieu. Cela correspond à ce que nous avons lu dans l'Ecclésiaste. Quoi que nous fassions, nous devons y mettre toute notre énergie. Même si, dans ce cas, nous sommes des esclaves. Il peut arriver que l'on ait l'impression d'être un esclave dans son travail. Eh bien, nous sommes en 21. Quel que soit le travail, aussi mauvais soit-il, vous n'êtes pas un esclave au sens littéral du terme. Vous n'êtes pas un serviteur sous contrat, comme peut l'être l'exemple de l'Ancien Testament. Donc, même si notre travail est mauvais, quel qu'il soit, il n'est pas aussi mauvais que cela. Et Dieu dit, « Obéis en toutes choses à ton maître. » La simplicité du cœur. Ne vous contentez pas d'un service du bout des lèvres, « Oh, oui monsieur, je ferai ce que vous me dites de faire. » Vous savez, quand cette personne, ce maître n'est plus là, non, je mets la main à la charrue, je le fais de toutes mes forces parce qu'il n'y a rien d'autre. Quand je meurs, j'ai fini. Verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Mettez-y du vôtre, comme si vous travailliez pour le Seigneur, et non pour les hommes. Parce que Dieu nous ordonne de travailler, Donc, en fin de compte, quel que soit ce travail, quel que soit l'emploi qu'il nous a béni, toute porte qu'il a eue ouverte pour nous, l'opportunité d'obtenir de l'argent pour pouvoir nourrir nos familles, nous devrions voir Dieu derrière cela. Il a ouvert la porte. Ainsi, lorsque nous travaillons en fait pour lui. Verset 24. Sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage parce que vous servez le Seigneur Christ. En fin de compte, nous sommes cet exemple. Enfin, dans cette section, passons à la 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, sur quelques pages. Parce que si nous ne travaillons pas, c'est finalement ce qui arrivera. Parce que nous ne pouvons pas le faire. 1 Timothée 5, et le verset 8. 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison. Si nous ne subvenons pas aux besoins de notre famille, peu importe les circonstances. L'époque n'est plus ce qu'elle était. Il peut y avoir un mari qui travaille, il peut y avoir une femme qui travaille, il peut y avoir des enfants qui essaient d'aider dans un foyer. Dans le monde moderne, pour joindre les deux bouts, les deux parents travaillent. Si l'un des deux ne travaille pas et qu'il en a besoin, c'est l'homme, bien sûr, qui doit être le chef de famille. Dans un monde parfait, c'est ce qui se passerait. La femme pourrait rester à la maison avec les enfants et faire toutes les choses dont parle le Proverbe 31. Mais si nous ne prenons pas soin des nôtres, surtout de ceux de notre maison, il a renié la foi. Parce que nous devons prendre soin de notre propre maison si nous voulons être chrétiens, et il est pire qu'un infidèle. Donc si on ne travaille pas, on ne subvient pas aux besoins de sa maison, et on est pire qu'un infidèle ou qu'un non-croyant. C'est très grave pour Dieu. Il s'attend à ce que nous travaillions, vous et moi. Il s'attend à ce que nous fassions le travail qui est attendu. Et ce n'est que le sens physique du terme. Peu importe que nous abordions maintenant l'aspect spirituel de la question. Dieu attend de nous que nous fassions notre part. Que nous fassions des efforts. Il n'y a aucune raison, quelle que soit la fatigue de notre vie, que nous puissions nous reposer et dire, « Vous savez quoi, je veux juste avoir une maison de vacances à Cancun et me reposer. » Ce n'est pas la vie à laquelle vous et moi avons été appelés. C'est aussi simple que cela. Nous ne prenons pas notre retraite. Nous ralentissons, mais nous ne prenons pas notre retraite. Nous ne mettons pas nos pieds sur la plage et c'est tout, c'est fini. Les gens partent en vacances. C'est très bien. Mais comme mode de vie, les chrétiens travaillent physiquement et spirituellement. Revenons à Ésaïe 60. Nous allons le diviser en plusieurs parties. Tout d'abord, regardons ce que Dieu fait pour le travail. Cette section est relativement courte, mais nous la mettrons en place car nous consacrerons une grande partie du message à l'étude de ce que nous devrions faire individuellement. Ésaïe 60. Cela explique assez bien l'approche globale de Dieu en matière de travail. Ésaïe 61, les commencer au verset 1. Verset 1 d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Si Dieu envoie un prophète, Ésaïe en l'occurrence, c'est ce qu'il veut avoir fait. C'est ce que Dieu fait, et comme il le fait à travers des serviteurs humains. Dans l'Ancien Testament, des prophètes, dans le Nouveau Testament, des apôtres dans le ministère, et puis, bien sûr, dans chacune de nos vies, Christ fait un travail en nous. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs qu'ils sont libres, et aux prisonniers qu'on ouvre les prisons. Et au verset 2, pour proclamer l'année favorable du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, le moment où les larmes s'en vont. Et ne pensez pas que c'est Ésaïe qui a été envoyé pour faire cela. Passons au Nouveau Testament, à Luc 4. Vous connaissez probablement ce verset. Nous l'avons lu de nombreuses fois, notamment tout au long de la série. Luc, chapitre 4. Les choses n'ont pas changé pendant quelques milliers d'années, nous pouvons donc supposer qu'elles ne changeront pas pendant quelques milliers d'années encore. Luc, chapitre 4, verset 18. Le verset 18 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est presque textuel, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Rappelez-vous qu'il a été dit, « Annoncez la bonne nouvelle aux humbles. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est exactement la même chose que de penser ceux qui ont le cœur brisé, prêcher la délivrance aux captifs. Rappelez-vous qu'il a été dit, prêcher la liberté aux captifs, c'est la même chose. Et rendre la vue aux aveugles. C'est une nouveauté qui a été ajoutée. Et de libérer ceux qui sont meurtris. Rappelez-vous la relâche de ceux qui sont liés. Verset 19, pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. L'intention de Dieu, l'œuvre qu'il fait dans les gens n'a pas changé depuis des milliers et des milliers d'années. Il construit des êtres humains. Vous et moi sommes ses premiers fruits. Les 144 000. Le groupe qui part en premier. Personne dans l'histoire ne sera les 144 000, sauf nous. Frères et sœurs, notre appel, notre vocation, ce à quoi Dieu nous a appelés pour faire du travail est tellement unique. Vous remontez dans le temps, je me souviens avoir entendu ou lu, je crois que j'ai lu une citation de Monsieur Armstrong qui disait que lorsque nous avons été appelés dans cet âge, il n'y avait qu'une seule raison, c'était pour faire le travail de Dieu, ce à quoi nous allons arriver parce que, sinon, Dieu ne fait pas exception de personne. Nous avons obtenu le privilège dont Dieu ne respecte pas les personnes, donc pour qu'il nous appelle dans cet âge. Cela signifie qu'il a un travail à nous faire faire. C'est très différent à d'autres époques. Dans le royaume de Dieu, les gens travailleront, ils auront un emploi, ils devront se forger un caractère, mais ils ne lutteront pas contre la société, ils ne lutteront pas contre Satan. Ce sera un monde différent. Alors nous, être appelés dans cet âge, c'est plus difficile. Cela signifie que nous devons travailler, mais cela signifie aussi que nous obtenons la plus grande récompense de l'histoire, si vous voulez. C'est pourquoi nous sommes appelés à travailler. C'est pourquoi Dieu insiste tant sur ce point, parce que nous sommes appelés à cette époque à faire du travail. Pour accomplir ce qui est dit dans Ésaïe et ce qui est dit dans Luc, c'est-à-dire lier, aider, élever et annoncer l'année sainte. Cela se produit grâce à quelque chose que nous avons appelé depuis des lustres, le travail, aussi simple que cela. Ou nous l'appelons le travail de Dieu. Puis nous commençons à décomposer cela. Il s'agit de la première et de la deuxième commission. C'est le travail dont nous parlons tout le temps. C'est le travail que vous et moi accomplissons avec acharnement, et nous verrons comment nous le faisons personnellement au fur et à mesure que nous avançons. Mais regardons le travail. Et rappelez-vous que nous avons vu l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ, souvent ce qu'il faisait. Maintenant, sautons dans ce que signifie travailler. Matthieu 21. Encore une fois, des versets de base, mais importants. Matthieu, chapitre 21. Nous allons examiner la première et la deuxième commission, quelques versets de base pour la définir avant de la rendre beaucoup plus personnelle et actionnable, si vous voulez. Verset 28, verset 18. Excusez-moi, du chapitre 28. Matthieu 28, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est la première mission. Nous devons aller prêcher l'Évangile. Et les gens qui répondent, les gens qui sont appelés répondront à cet Évangile. Ils voudront obéir, tout comme vous et moi. Ils changeront, ils grandiront. Ils feront partie des 144 000. Imaginez que vous fassiez partie d'un travail, que vous construisiez une maison. Vous avez tous ces projets d'habitat pour l'humanité. C'est formidable de construire une maison pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens, et c'est la joie, l'excitation. Dans les émissions de Relooking, les gens se réjouissent de ces projets caritatifs et les personnes qui y travaillent se sentent bien parce qu'elles ont aidé quelqu'un. Les êtres humains se sentent bien lorsqu'ils aident les autres. C'est ainsi que Dieu nous a construits. Mais se sentir bien parce qu'on aide quelqu'un à construire une maison par opposition à ce que vous ressentirez lorsque vous aurez aidé quelqu'un à faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité. C'est la première mission, et nous avons tous un rôle à jouer. Encore une fois, nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons tous un rôle à jouer, un rôle que nous devons accomplir. Passons au chapitre 21 de Jean. Regardons la deuxième commission. Fin du livre de Jean. Jean, chapitre 21, verset 15. Jean 21, 15. Le verset 15 dit, « Lorsqu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceux-là ?» Simon, qui était humble, répondit, « Oui, bien sûr, Seigneur, je t'aime plus que personne ne peut t'aimer. » Simon n'était pas un enfant de la rue. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » N'oubliez pas que Pierre allait devenir le chef de l'Église, le chef humain, un peu plus tard. Verset 16, il lui dit pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et lui, Christ, dit à Simon-Pierre, « Paie mes brebis. » Imaginez Pierre. Il n'avait aucune idée du poids de ce qu'il attendait pour être le chef des apôtres de l'Église du Nouveau Testament, le premier. Mais Christ pose le cadre de ce qu'il doit faire. Et puis au verset 17, il dit, « Je le fais une troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» À ce moment-là, Pierre est attristé par ce qu'il lui a dit une troisième fois, « M'aimes-tu ?» Comme, oui, je l'ai dit deux fois, il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que nous faisons depuis 2002, depuis que cette phrase a été dite à Pierre. L'Église du Nouveau Testament est née à la Pentecôte, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Le ministère a été mis en place et structuré, et des milliers d'années se sont écoulées. C'est ce que nous appelons la deuxième mission, celle de paître le troupeau de Dieu. Parce qu'une fois que quelqu'un répond à la vérité, la première commission, il entre dans l'Église, il est invité, il est baptisé, maintenant il est un troupeau. Le poisson aux brebis. Paie mes brebis. C'est la deuxième mission. Revenons au premier acte. Regardons quand tout a commencé. Acte, chapitre 1, probablement un peu plus de, regardez sur la page jusqu'au verset 6. Acte 1, verset 6, s'étant donc réunis, ils l'interrogeaient en disant, « Seigneur, nous avons lu cela tant de fois, mais dans le contexte de ce que nous regardons, Seigneur, vas-tu en ce moment rétablir le royaume en Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a mis en son pouvoir. Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette déclaration. L'Église du Nouveau Testament a nourri et accompli le premier et le deuxième commandement pendant, encore une fois, 2000 ans. Elle a connu des hauts et des bas en termes de taille. Nous sommes sortis d'une époque qui était énorme, et maintenant nous sommes beaucoup plus petits. Mais chacun fait sa part. Chacun a sa place dans le travail de Dieu. Et cela peut être aussi simple que des prières, les vôtres, celles de vos enfants, de votre famille, priant toujours pour le travail de Dieu, pour qu'il y ait une porte ouverte, pour que Dieu puisse encore travailler avec les gens, pour qu'il puisse atteindre les gens. Cela devrait être un élément fondamental de nos prières. Notre soutien financier, dîmes, offrandes, biens en commun. Parce que nous vivons dans un monde qui exige que nous dépensions de l'argent pour atteindre les gens. Notre exemple, vous et moi, peut-être, comme le terme a été utilisé pendant des décennies, vous et moi peut-être la seule Bible que certaines personnes voient. Nous devrions refléter ce mode de vie. Pourquoi cette personne est-elle toujours si heureuse? Pourquoi est-elle différente? C'est un objectif qui ne doit jamais être perdu. Revenons à Néhémie. Chapitre 6. Néhémie, chapitre 6. Nous ne pouvons pas perdre de vue le travail qui nous a été confié. La vocation, le travail, l'appel dans lequel Dieu nous a entraînés en nous appelant. Encore une fois, mes frères, il ne fait pas exception de personne. Nous sommes ici pour faire le travail dans notre vie personnelle, dans notre travail, pour être un exemple et faire partie du travail de Dieu. Certains d'entre nous ont l'occasion de le faire ici et chaque jour, j'essaie de me rendre utile. Cela fait plus de 20 ans que je suis au siège. J'essaie de me pincer et de me rappeler chaque jour à quel point il est spécial de pouvoir participer au travail de Dieu dans le cadre de mon emploi actuel, sans parler de ma vocation et de mon appel. Mais nous en faisons tous partie. Peu importe à quel point vous êtes éloigné ou isolé. Nous sommes tous ceux qui nous soutiennent ensemble. Nous sommes plus grands que la somme de nos parties pour pouvoir accomplir le travail. Et puis nous avons la bénédiction de Dieu derrière nous. Néhémie 6 et verset 1. Néhémie 6, verset 1. Sanballa, Tobija, Gesem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche dans Jérusalem. La muraille était en train d'être reconstruite autour de Jérusalem à l'époque. C'est tout simplement intéressant avec Néhémie. Vous allez voir l'angle d'attaque. Bien qu'à cette époque il n'ait pas de porte à l'entrée, ils sont donc toujours vulnérables. Ils envoyèrent un message à Néhémie et lui dirent, « Viens, rencontrons-nous dans quelques villages de la plaine de Nô. » Mais ils pensaient faire du mal. Bien sûr, c'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient les ennemis. Et ils savaient qu'une fois ces murs fermés, Jérusalem deviendrait une ville beaucoup plus difficile à attaquer. Et quelle a été la réponse de Néhémie? Même s'ils savaient qu'ils étaient vulnérables parce que les portes n'avaient pas encore été mises en place. Verset 3. Je leur envoyai des messagers pour leur dire, « Je fais un grand travail, je ne peux donc pas descendre. » Pourquoi ce travail cesserait-il pour quoi que ce soit en effet? Alors que je le quitte et que je descends vers vous, ils m'envoyèrent des messagers 4 fois de suite. Et qu'a-t-il fait? Et je répondis de la même manière, non, rien ne me distraira de l'œuvre de Dieu. En ce temps-là, c'était cela, le travail de Dieu, Tout comme vous et moi, aujourd'hui, nous avons le travail de Dieu à faire. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Oui, nous devons avoir notre travail normal. Oui, nous pouvons avoir des loisirs, des amis et des choses que nous faisons parce que nous sommes des êtres humains. Mais vous et moi voyons la ville de loin, et tout ce que nous faisons pour soutenir le travail, être un exemple, permet à plus de gens de voir la ville de loin. D'autres personnes peuvent s'asseoir dans les chaises à côté de vous. Et, frères, nous faisons notre travail ici. Nous travaillons dur sur tant de choses différentes. Et certaines d'entre elles ne vous sont peut-être même pas connues. Certains d'entre vous connaissent beaucoup d'eux, disons beaucoup, c'est une poignée de certains des hommes qui sont encore sur le salaire sur le terrain, et venus sur le salaire pour aider à soutenir le travail. J'espère qu'ils se considèrent comme Paul et qu'ils se disent « Non, je pourrais être un faiseur de tente. » Nous pouvons faire plus d'efforts pour atteindre les gens. Leur sacrifice permet de mettre des gens à côté de vous dans une congrégation. Si votre pasteur ne travaille pas ou n'est pas employé par le travail, remerciez-le pour cela, parce qu'il fait un sacrifice pour que plus de gens puissent être atteints. Nous avons toutes sortes de projets pour optimiser notre façon d'inviter et diverses autres choses, mais il y a deux initiatives majeures sur lesquelles nous avons travaillé en arrière-plan et qui vous paraîtront les plus personnelles parce qu'elles vous affecteront de la façon la plus personnelle. D'une part, vous ne verrez pas le produit, mais je pense que dans le bulletin d'annonce de cette semaine, et donc juste avant que vous n'entendiez ce message, il sera probablement mentionné, nous faisons quelque chose qui s'appelle la lettre d'information des donateurs. C'est un projet dont nous parlons depuis un certain temps, mais nous avons déjà relâché la première. En gros, tout collaborateur ou donateur recevra chaque mois, probablement au milieu du mois, une lettre de 8 pages et demi paragraphe 11 pages recto verso pour la version imprimée, ainsi que la version électronique de ce à quoi il participe, parce que la chose la plus importante pour que les gens donnent n'est pas de demander de l'argent. Vous pouvez continuer à demander de l'argent, c'est de la sollicitation, mais dans l'Église de Dieu, nous ne sollicitons pas, nous donnons des choses gratuitement, et c'est de leur propre gré qu'ils les reçoivent. Les gens donnent pour des choses qui les inspirent. Ils donnent pour des choses plus grandes qu'eux. Notre objectif, avec cette lettre d'information aux donateurs, est de leur montrer ce dont ils font partie. Il se peut qu'ils ne viennent jamais. Ils ne seront peut-être jamais baptisés, mais tout ce qu'ils donnent, ils soutiennent le travail. Ils nous permettent de faire plus de publicité et d'en faire plus. C'est un marché inexploité de centaines de milliers de personnes que nous atteignons, que nous engageons d'une nouvelle manière. L'autre nouveauté, que vous verrez encore plus directement, est ce que nous appelons les conférences bibliques publiques régionales. En gros, vous pouvez vous placer dans une région, si vous êtes ministre dans cette région, notre première conférence aura lieu probablement fin mars, début avril, et sera, parce que nous sommes au 21e siècle, autrefois. Si vous revenez au monde entier, une conférence biblique publique est un terme que vous entendiez. Vous l'entendiez tout le temps, c'était l'une des principales façons pour l'Église d'atteindre les gens, habituellement, par le biais de la liste des abonnés à la The Real Truth, ils étaient invités. Monsieur Armstrong, un évangéliste ou un ministre local se trouvait dans une ville particulière et invitait tous les abonnés de la liste de la pure vérité de cette région, puis il se rendait dans une salle, et il pouvait y avoir entre 2, 300 et 5000 personnes qui assistaient à cette conférence biblique publique. Il prêcha généralement sur des sujets très simples, qui correspondaient à ce que l'on trouve dans les brochures. Nous sommes aujourd'hui en 21. Nous avons la technologie. Nous pouvons donc utiliser Facebook et les médias sociaux pour faire de la publicité dans une région spécifique afin d'organiser des conférences bibliques publiques à Atlanta, à Orlando, au Cap ou dans n'importe lequel de ces endroits dans le monde, à mesure que nous étendons le programme pour attirer ces personnes qui ont souhaité participer, sans être des donateurs encore plus profonds. Il ne s'agit que de contacts. Ce sont des personnes qui sont simplement intéressées. Ils sont peut-être abonnés au site web ou ils nous ont aimés sur Facebook, mais nous pouvons les atteindre et leur faire savoir avec quoi ils sont entrés en contact et ce qu'ils peuvent faire ensuite. Les conférences bibliques publiques régionales et le bulletin d'information des donateurs, et nous avons d'autres éléments sur lesquels nous travaillons en arrière-plan que nous voulons mettre l'accent sur le travail. Tout ce que Dieu nous donne comme temps. Encore une fois, vous m'avez entendu le dire, je veux me tenir devant Jésus-Christ, être jugé, et qu'il ne dise pas, mais je t'ai donné une semaine, un jour ou un mois de plus. Pourquoi n'as-tu pas fait X? Cette conversation me terrifie. La conversation inverse serait, pourquoi as-tu fait cela? Ça, je peux le supporter. Je pourrais dire, Christ, Dieu, Monsieur, vous m'avez dit de travailler. Vous m'avez donné un travail. Tu attendais de moi que je travaille. Tu as rempli ta parole d'exemple de travail. Alors, tu sais ce que j'allais faire? En particulier, payé par la réserve de Dieu, où cela n'a pas vraiment d'importance. En tant que chrétien, j'allais travailler. Alors, je suis désolé d'avoir trop travaillé. Vous n'aurez pas cette conversation avec Christ, mais c'est bien mieux que celle qui consiste à dire, pourquoi n'as-tu rien fait, serviteur ingrat? Parce que c'est là que cela mène. Il est beaucoup plus facile d'avoir la première ou la deuxième conversation que la première. Nous faisons donc notre part ici. Vous verrez plus de détails et nous vous tiendrons au courant, dans le bulletin d'annonce, de la façon dont les choses évoluent et se développent. Et puis un point, nous l'espérons très bientôt, Christ l'interrompt. Et puis, c'est la chose étonnante que vous et moi pouvons faire. Nous faisons donc partie du travail en ce moment. Nous essayons d'atteindre des centaines, des dizaines et des millions de personnes. Et à un moment donné, Christ revient, coupe court, et alors nous continuons à faire du travail pour des centaines de millions de personnes, des milliards de personnes. Ainsi, lorsque nous passons au royaume de Dieu, tout ce que cela signifie, c'est que nous faisons un travail plus important. Cela ne change pas. Dieu dit qu'il ne change pas l'Ancien Testament en Nouveau Testament. Nous passons donc d'un travail important à un travail plus grand. Nous pouvons toucher le monde entier dès maintenant. Nous pouvons atteindre des endroits dans le monde entier que nous ne pouvions pas atteindre. Nous ne sommes pas aussi grands, mais nous pouvons atteindre ces pays qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ainsi, nous passons d'un bon travail, substantiel, important, critique, consistant à remplir des sièges vides, à un travail d'envergure mondiale dans le royaume de Dieu. Le royaume d'Israël d'abord, mais aussi le monde entier. Dans le temps qui nous reste, examinons l'aspect personnel de ce travail. Nous l'avons un peu abordé. Allez donc à Éphésiens 4. Éphésiens, chapitre 4, de retour au Nouveau Testament. Rappelez-vous, le premier verset de ce chapitre d'Éphésiens 4 dit que nous sommes appelés à faire un travail ou une vocation. C'est ce que nous avons lu dans l'introduction. Si vous sautez au verset 28 d'Éphésiens 4, vous lisez, que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Vous avez donc un voleur. Maintenant, le voleur est converti, donc vous ne volez pas parce que c'est enfreindre l'un des 10 commandements, mais pourquoi travaillez-vous? Quel est le but? Le verset continue, afin que la raison, il puisse donner à celui qui a besoin. Ainsi, vous et moi, nous faisons notre travail physique, et franchement, notre travail spirituel aussi, pour aider les autres. Nous n'allons pas essayer de réparer le monde. Ce n'est pas notre but. Le monde est irrécupérable. C'est pourquoi nous regardons les nouvelles du monde. Les nouvelles du monde sont incroyables à regarder. Parfois, elles sont difficiles à digérer. Et parfois, nous pouvons aller trop loin. Nous pouvons nous engager dans des voies qui n'ont pas de sens. Mais Dieu nous dit de regarder le monde pour une raison principale, savoir que nous ne pouvons pas l'arranger. Si vous vivez dans une bulle, ou si vous êtes dans une petite ville ou un village, où les choses sont plus autonomes et plus stables, si nous n'observons pas le monde et ce qui se passe autour de nous, il peut être plus facile de penser, vous savez quoi? Les choses ne vont pas si mal. Je vis dans une ville agréable. Mais Dieu nous ordonne de veiller, de regarder le monde et de dire, non, nous pouvons vivre dans une poche de paix, si vous voulez. En tant que chrétien, Dieu nous protège et nous place dans des endroits qui le sont, et il nous protège lorsque les situations ne le sont pas. Nous pouvons donc avoir ce sentiment, mais si nous regardons autour de nous et que nous disons, oh, ces problèmes ne peuvent pas être résolus. Ils ne sont tout simplement pas solubles. Alors, nous travaillons non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, car une grande partie de ce que nous faisons en tant que chrétiens concerne les autres. Allez au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Quel est donc notre travail personnel? C'est ce que nous allons examiner pendant le reste du temps. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, quelques pages plus loin, sans doute, d'où vous êtes. Le verset 58 dit, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants sans cesse dans le travail du Seigneur. » C'est toujours notre objectif. C'est notre enthousiasme. C'est ce à quoi nous participons. Et plus nous sommes en mesure d'en parler et de vous le montrer, plus il est facile de s'en réjouir. Vous savez que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Lorsque nous faisons les choses comme Dieu voudrait que nous les fassions, il y a une récompense pour cela, à la fois dans notre travail, bien sûr, et dans notre vie spirituelle, nous forgeons le caractère, nous sommes un exemple. Nous faisons le travail de Dieu. C'est quelque chose de simple et il ne faut pas l'oublier. On dit merci dans une épicerie, on serre la main des gens, on sourit, on est gentil. Bien sûr, pour le peuple de Dieu, c'est facile, c'est attendu. Mais nous le faisons dans des situations où ce n'est peut-être plus aussi courant. C'était le cas avant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui nous permet de nous démarquer. Vous faites le travail de Dieu quand vous montrez un caractère pieux, dans les écoles, les épiceries, les supermarchés, les jeunes, quand vous jouez dans une équipe sportive. Quand vous êtes un jeune et que vous dites « Je ne peux pas travailler, ni jouer, ni m'entraîner parce que c'est le sabbat », vous êtes un exemple du mode de vie de Dieu. Il n'est pas facile de renoncer à certaines choses. Surtout quand on est jeune, on se dit « Oh, je vais rater quelque chose et perdre la possibilité de faire quelque chose. » Oui, on rate quelque chose, mais on se forge un caractère et on finit par se rendre compte qu'avec le temps, on se dit « Vous savez quoi? Ce n'était pas si mal. Je n'ai pas raté autant de choses que je le pensais. » La vie est ainsi faite qu'elle est drôle. Ce qui se trouve devant nous semble toujours être le plus important. Allez au chapitre 2 de Jacques. Chapitre 2 de Jacques, verset 14. Jacques 2, 14. « Qu'est-ce qu'un prophète, mon frère? Si quelqu'un dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres, peut-il être sauvé par la foi? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur est nu et dépourvu de nourriture quotidienne, et que tu dis à l'un d'eux, pars en paix, réchauffe-toi et rassasie-toi, alors que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour le sauver. Mais si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire à leur corps, qu'est-ce que cela peut leur apporter? En fait, il suffit parfois d'imaginer ces exemples. J'aime visualiser ces exemples. Vous avez un membre de la famille ou un membre de l'Église, un frère ou une sœur en Christ qui vient ici et dit « Bonjour, cela a été une semaine difficile, je n'ai pas pu me payer de la nourriture. » Vous lui donnez une tape sur l'épaule et vous lui dites « Eh bien, c'est parti. Vous êtes rassasié parce que je vous ai tapé sur l'épaule. Cela ne sert à rien. Qu'est-ce que cela porte ? Non, ils ont toujours faim. Leur estomac gronde toujours. Il faut faire quelque chose. » Verset 17. De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. N'étant pas seule, elle travaille ensemble. Oui, un homme dit, tu as la foi, et j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te dis, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je vous montre la foi dans le Dieu de l'univers à cause de ce que je fais parce que je sais qu'il m'a donné du travail à faire. Je montre donc ma foi en allant sur le terrain chaque jour, tout en sachant que j'ai deux tâches à accomplir. Mon travail physique et l'appel du christianisme. C'est ainsi que nous montrons notre foi, c'est ainsi que nous marchons. Comment faire autrement pour accomplir le travail ? 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Pour être un exemple, pour refléter la voix de Dieu, il faut la connaître. C'est aussi important que les prières et la dîme pour vivre le christianisme. 2 Timothée, chapitre 2 et verset 14. Le verset 14 se lit comme suit, « Rappelle-leur ces choses. Ce que je suis en train de faire, en les exhortant devant le Seigneur à ne pas discuter des paroles sans profit, mais pour la perdition de ceux qui les écoutent. Ne discutez pas, nous ne discutons pas. » Verset 15. Étudiez, creusez pour vous montrer agréé de Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'être confondu, divisant avec justesse la parole de vérité. Nous devons étudier la parole de Dieu, sinon nous ne serons pas prêts pour le moment où quelqu'un viendra nous demander, quelle est cette espérance qui est en vous? Vous connaissez ce verset? Et nous devons répondre parce qu'il est dit que nous devons répondre avec douceur et crainte. Quelle est cette espérance qui est en vous? Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, si nous ne la vivons pas, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Nous ne pouvons pas renvoyer la Bible à la personne qui pose la question. Revenons à Jacques, chapitre 1. C'est le début du livre de Jacques. Le premier verset dit, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères, réjouissez-vous des tentations diverses et variées qui vous assaillent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais laissez la persévérance accomplir son travail. Si nous grandissons en caractère, si nous laissons les épreuves nous développer, si nous construisons l'épine dorsale, la force du christianisme, la patience, oh, vous et moi. S'il y a une autre époque dans l'histoire du monde, j'en suis sûr, nous ne sommes pas en train d'être plongés dans l'huile. Nous ne sommes pas écorchés vifs. Je n'aurais pas voulu être chrétien lorsque le martyr était la seule option. Oui, à 100%. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous avons l'air conditionné, des voitures modernes, Tant de choses qui nous rendent la vie bien plus agréable que si nous étions suspendus dans une marmite d'huile bouillante. Ne vous méprenez pas. Mais ce que vous et moi avons vécu au cours des 8 ou 10 dernières années, la façon dont nous regardons les séries de prophéties, nous pouvons voir un rendez-vous qui semble correct, où nous pensons, oh, c'est une situation d'espoir différé. Non, laissons la patience accomplir son œuvre parfaite. Afin que vous soyez parfait et entier, ne manquant de rien. Si nous laissons la patience accomplir son œuvre, si nous attendons et grandissons, si nous nous développons et forgeons notre caractère, si nous étudions la Bible, si nous sommes un exemple, si nous faisons le travail, vous savez quand vous ne manquerez de rien. Lorsque votre patience vous mènera à la porte du royaume de Dieu. Bien sûr, nous devons être satisfaits dans cette vie, mais vraiment, au point de ne rien vouloir, quand vous ne voulez pas, comme nous l'avons entendu dans un message, ne pas avoir faim, ne pas sentir la chaleur, ne pas être fatigué, ne rien vouloir. Non, c'est à ce moment-là que l'on est dans le royaume de Dieu en tant qu'être de Dieu. Alors frères et sœurs, que notre patience continue à travailler, quel que soit le temps que Dieu nous donne. Nous voyons la finalité. Nous devons simplement continuer à faire le travail jusqu'à ce que nous y arrivions. Galates 5. Un peu plus ici. Donc, forger le caractère, grandir, servir. Galates 5. Étude. Verset 10. Galates 5. L'ensemble du tableau. Et le verset 10. Le verset 10 dit, « J'ai confiance en vous par le Seigneur, en ce que vous n'aurez pas, autrement, d'état d'âme. Mais celui qui vous trouble portera son jugement, quel qu'il soit. Et moi, frères et sœurs, si je prêche encore la circoncision, pourquoi souffre-je encore la persécution? C'est alors que cesse l'offense de la croix. Je voudrais qu'ils fussent même retranchés, ceux qui vous troublent. Je voudrais que vous n'ayez pas à passer par là, frère. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire, mais j'aimerais que vous n'ayez pas à le faire. Car, frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, n'utilisez pas la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Une partie de la raison pour laquelle nous avons été appelés à la liberté, une partie de la raison pour laquelle nous avons été appelés à ce mode de vie, une partie de notre travail est de nous servir les uns les autres. Parce que tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne Dieu, c'est de se concentrer sur les autres. Lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous devenons internes, c'est ce que fait Satan. Il se concentre sur lui-même. Il a vu sa grandeur, sa perfection, son orgueil. Et maintenant, l'œuvre de Dieu nous fait nous concentrer sur les autres personnes. Quand vous pensez à remplir les sièges vides, quand vous priez au sujet du travail, quand vous donnez financièrement, vous pensez à comment l'œuvre de Dieu peut atteindre d'autres personnes. Comment d'autres personnes peuvent-elles goûter à ce que je goûte? C'est ce que vous et moi devons faire. Concentration sur l'extérieur. Proverbe 21-22. Parce que, frère, vous et moi sommes un exemple. Proverbe 22. Une partie de notre travail, comme nous l'avons dit plusieurs fois dans ce message, est d'être un exemple. Cet exemple peut varier dans tant de domaines différents. Jeune, vieux, peu importe, mais cela fait partie de notre travail. Cela fait partie de notre travail personnel. Dans le chapitre 22 des Proverbes, nous allons lire le verset 21-9 des Proverbes 22. Le 29 dit, « Vois-tu un homme diligent dans ses affaires ? Vois-tu un homme qui travaille, qui met la main à la pâte, qui le fait de toutes ses forces, il se tiendra devant les rois. Il ne se présentera pas devant des hommes méchants ou pourris. Si nous travaillons dur, nous excellerons. Ce ne sera pas toujours facile parce que, rappelez-vous, il y a des épreuves qui arrivent, et les épreuves nous permettent de travailler les patients, et les patients ayant un travail parfait nous font entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y aura des épreuves, mais Dieu bénit le travail. Se tenir devant les rois. Frères et sœurs, nous serons des rois si nous travaillons dans cette vie. Allons à Daniel. Daniel 6. Daniel chapitre 6. Voici un exemple de quelqu'un qui travaille et le produit de ce travail. Mettez-vous à sa place et imaginez que cela puisse vous arriver. Ce n'est peut-être pas exactement la même chose que Daniel, les temps sont très différents, mais Dieu bénit la diligence. Il bénit le travail acharné. Il bénit l'obéissance. Et travailler, c'est être obéissant. Rappelez-vous, c'est notre appel, notre vocation. Première de Daniel 6, il plut à Darius d'établir Daniel à la tête du royaume avec 120 princes. Boum, tout en haut, qui devait être sur tout le royaume et sur ses trois présidents dont Daniel était le premier, afin que les princes rendissent compte sous leur autorité, et que le roi n'eût aucun dommage. Voici donc ce garçon juif, Daniel, qui s'élève, qui a été choisi parmi les Israélites, et il est à la tête de tout le royaume sous Darius, bien sûr. Verset 3, parce qu'il était diligent. Il a fait un travail acharné. Dieu l'a béni parce qu'il était obéissant. Verset 3, alors ce Daniel fut préféré au président et au prince. Probablement à leur grand an, car nous voyons plus tard ce qu'ils ont essayé de faire, parce qu'il y avait en lui un esprit excellent, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. L'exemple de Daniel, son effort, sa diligence, son travail, reflétait le Dieu de la Bible. Parce que Darius ne pouvait pas voir l'esprit en lui, bien sûr, mais Darius pouvait le regarder et dire, « Il y a un excellent esprit en lui, parce que Daniel reflétait l'esprit de Dieu en lui. » Darius voit un excellent esprit, en effet. Daniel l'a reflété pour que Darius puisse le voir, et il a été béni. Il a été placé devant des rois et mis à la tête de tout le royaume. Lorsque nous travaillons personnellement, nous voyons ce genre de bénédiction. Passons au Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Nous commencerons au verset 11. 1 Pierre 2, 11. Excusez-moi. Le verset 11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et pèlerins, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Le verset 12. Que votre conversation ou votre conduite soit honnête parmi les païens, afin que, tandis qu'ils parlent de vous comme de malfaiteurs. Parce que quoi que nous fassions, la même chose est arrivée à Daniel, si nous avions continué à lire, ces princes et ces rois voulaient alors faire trébucher Daniel pour qu'il soit obligé de perdre ce pouvoir, même s'il faisait ce qu'il fallait faire. Mais ils parlent de vous comme de malfaiteurs, ils peuvent par vos bonnes œuvres. Parlent de malfaiteurs, mais par vos bonnes œuvres, qu'ils peuvent contempler. Ils contempleront, glorifieront Dieu au jour de la visitation. Il est difficile de nier ce qui se passera au jour de la visite si nous vivons le livre, si nous reflétons le mode de vie de Dieu, même si des gens s'en prennent à nous, et c'est là qu'en tant que chrétiens, nous tendons l'autre joue. Nous ne sommes pas stupides, mais nous ne ripostons pas par la violence. Nous ne nous battons pas, nous marchons dans la vie en sachant que la solution au problème est le royaume de Dieu. Nous marchons dans cette vie en sachant que nous faisons partie d'un travail qui annonce la solution au problème de l'humanité. C'est ce que nous avons à faire, et cela ne plaira pas à tout le monde. Continuez au verset 13. Soumettez-vous à toute ordonnance de l'homme, à cause du Seigneur. Que ce soit au roi comme suprême, ou au gouverneur, ou comme à ceux qui sont envoyés par lui pour punir les malfaiteurs. Disons en quelque sorte la police. Nous obéissons à la police, nous obéissons au gouvernement, nous payons nos impôts. Et pour la louange de ceux qui font bien. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. Quel que soit le nombre de fois où nous sommes sapés ou poignardés dans le dos, il y a quelque chose de bizarre, si l'on peut dire, chez une personne qui ne se fait pas saper et poignarder dans le dos en retour. Cela ne signifie pas nécessairement que vous ne défendez pas votre position, mais que vous ne vous défendez pas. Vous n'essayez pas de vous venger de la personne. Vous savez que la vengeance appartient à Dieu, mais vous continuez à vivre. Ils font quelque chose de mal et vous vous dites, vous savez quoi? Je vais exceller en les traitant, je vais verser des charbons ardents sur leur tête en étant si gentil avec eux. Ensuite, vous continuez à vivre. Vous continuez à travailler, vous continuez à faire, vous continuez à être l'exemple. Puis, à un moment donné, dans le cadre d'un travail, votre patron dira, vous savez quoi? Cette personne, je ne pense pas qu'elle soit ce que l'autre personne décrit, parce qu'elle continue à bien faire son travail. Elle continue à travailler dur. Elle ne se bat pas. Ce n'est pas un employé à problème. La personne qui se plaint de semble se plaindre de tout le monde. Finalement, vous mettez le silence, l'ignorance des hommes insensés. Nous vivons debout, nous faisons cela dans le cadre de notre travail. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5 et verset 13. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes censés épicer les choses. Nous avons entendu récemment un sermon à ce sujet sur le sel et ce qu'il peut faire. Puis au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel, nous assaisonnons et nous éclairons. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une chandelle, on la met sous le boisseau, on la place sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous l'élevez très haut. Vous montrez où se trouve la ville sur une colline, une lumière sur un chandelier. Vous ne pouvez pas vous cacher si vous ne vivez pas le christianisme. Si nous ne sommes pas vrais, si nous sommes fourbes, si nous vivons une vie secrète, qui n'est pas celle que le livre dit que nous vivons, ou ce que nous montrons le jour du sabbat, tout ira bien. Pas avec Dieu. En fin de compte, vous aurez un problème parce que nous pourrions faire toute une déviation en parlant de ce que Dieu dit à propos de l'hypocrisie, mais si nous la vivons, si nous faisons les choses que nous devrions faire, nous allons nous démarquer. Les gens n'apprécieront pas. Finalement, comme nous l'avons lu précédemment, notre conduite nous permet de nous en sortir. Dieu nous bénit. Au verset 16, nous considérons cela comme un commandement. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père, votre Père, qui est dans les cieux. En fin de compte, il se peut qu'ils ne le comprennent pas dans cette vie, ou qu'ils réagissent. Ils peuvent voir votre conduite, votre attitude. Tant de fois j'ai entendu des gens dire, « Oui, quelqu'un est venu vers moi, m'a posé une question parce que j'étais toujours si positif, ou parce que je semblais plein d'espoir, ou parce que les choses ne m'atteignaient pas comme elles atteignaient d'autres personnes. » Et on leur a demandé, « Pourquoi êtes-vous si positif? Pourquoi cet espoir qui vous habite ?» Je vais paraphraser le verset, et les gens viennent. Ils disent, oh, à cause de la façon dont je vis ma vie, je veux obéir à Dieu et à la Bible, et l'Église que j'enseigne croit à la vérité et à la conduite. Quelle que soit la question, c'est avec douceur et crainte que nous nous souvenons, mais si nous sommes une lumière, nous glorifions Dieu. Si nous sommes un exemple, nous faisons le travail de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés frères en ce temps. Parce que si vous n'êtes pas là, nous n'avons que peu d'argent à donner. Nous devons vivre notre vie. Nous devons payer nos factures et notre hypothèque et aider nos enfants à aller à l'école, tout cela. Mais vous faites le travail là où vous êtes, dans vos emplois, dans vos écoles, par votre exemple, parce que cela glorifie Dieu. C'est votre part, ma part dans l'accomplissement du travail de Dieu. Il y en a tant qui sont entrés dans l'Église universelle de Dieu pour qu'elle atteigne la taille qu'elle avait. Ne négligez jamais le nombre de ceux qui l'ont obtenu, mais qui ont été un exemple ou qui sont venus, je ne pense pas qu'il y en ait eu un tiers. Je dois me souvenir du pourcentage, mais un pourcentage énorme est venu dans l'Église à cause de l'exemple des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, ainsi de suite. Ce n'est pas sans importance dans le grand ordre des choses que votre part du travail, disons un tiers, pour être responsable d'un tiers des personnes que Dieu peut appeler. Ne minimisez jamais ce rôle. Ne pensez jamais que je suis au milieu de nulle part ou que je suis veuve. Je suis veuve. Je suis une mère célibataire. Je n'ai pas un grand travail. Je ne peux pas donner beaucoup à l'Église. Je n'ai rien de bien en commun. Ma femme et moi étions si enthousiastes à l'idée de partir, à l'époque où nous avons pensé à l'appel du clairon et où nous avions ce Krugerrel en or. C'était vraiment tout ce que nous avions de valable. Lorsque nous avons pu le donner, nous nous sommes dit que c'était formidable. Nous avons fait notre part. C'était une seule pièce. Donc, si vous n'avez pas d'argent bien en commun, faites le travail de la manière dont vous le pouvez. Si vous n'avez pas de ressources financières, priez et soyez un exemple, parce que cela peut être responsable d'un tiers de ceux que Dieu peut appeler. Quelle est l'importance de ce travail? Quelle est l'importance de chacun de nos travaux personnels, de notre exemple pour le travail de Dieu? C'est pour cela que Dieu vous a appelé. C'est pourquoi vous devez le faire. Bien sûr, si vous avez des ressources, alors vous êtes appelé, et Dieu vous a béni pour donner ces ressources afin de nous aider à atteindre plus de gens. Mais c'est là le piège 21, et c'est pourquoi il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que si vous avez des ressources financières, vous devez donner en bien en commun, vous devez donner des offrandes. C'est nécessaire, mais il faut aussi vivre et suivre l'exemple chrétien. Vous devez faire la même chose que le pauvre. Dieu vous a juste béni pour que vous puissiez aider à financer le travail parce qu'il doit faire les deux, mais nous devons tous vivre cette marche. Nous devons tous faire notre travail pour pouvoir soutenir l'œuvre et en faire partie. Enfin, en guise de conclusion, passons au chapitre 21 de l'Exode. Le chapitre 20 de l'Exode semble être un drôle d'endroit pour terminer un message sur le travail, mais faites-moi confiance un instant. Exode chapitre 20 et commençons au verset 8. 20 verset 8. Souviens-toi du jour du sabbat. Qu'est-ce que vous dites? Nous parlons de repos. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail. Et frères et sœurs, cela ne veut pas dire que du dimanche au vendredi vous travaillez à votre travail. Si vous avez une famille et que vous avez des tâches à accomplir, vous passez probablement le dimanche à travailler. Vous avez probablement du temps où vous faites des choses qui sont du travail. Il n'y a pas que le 9 à 5 qui est du travail. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire qui sont du travail. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras ton ouvrage. Mais le septième est le sabbat de l'Éternel. Tu ne feras aucun travail, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni les étrangers qui sont dans tes portes. L'Éternel a fait en 6 jours le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour, tandis que l'Éternel a béni et sanctifié le jour du sabbat. Si vous et moi travaillons dur 6 jours par semaine, vous savez ce que cela fait en fin de compte? Cela nous fait apprécier le jour que Dieu a fixé pour se reposer. Il a dit, non, je suis un être humain. Vous avez une limite. Il y a un jour par semaine où tu dois te reposer. D'une certaine manière, nous devrions travailler suffisamment dur pendant les 6 jours pour voir arriver le sabbat et courir vers lui en pensant, nous y sommes presque. J'ai presque terminé ma semaine. J'ai travaillé si dur, je l'apprécie. Lorsque nous travaillons dur, nous apprécions davantage le sabbat. 6 jours nous devrions travailler et ensuite nous avons le sabbat. Frères et sœurs, nous recevons des dons. Dieu ne va pas nous faire travailler si dur que nous ne puissions pas suivre. Il nous a conçus pour travailler. Il nous a appelés à travailler. Il nous a appelés à participer au travail. Il nous donne ensuite un jour de sabbat pour nous reposer, nous recharger, nous donner de l'énergie spirituelle afin que nous puissions reprendre le travail une fois le soleil couché, une fois le dimanche arrivé, et continuer à faire nos deux travaux, bien sûr, notre travail physique, mais aussi notre côté spirituel. La Bible est un livre sur le travail, l'œuvre de Dieu, le travail, notre travail. Son travail en nous. Nous pourrions aller beaucoup plus loin sur ce sujet que nous n'avons le temps de le faire. Chaque fois que nous disposons d'un peu de temps que Dieu nous donne, qu'il nous bénit alors que cet âge touche à sa fin et que le travail devient tellement plus grand, chaque fois que nous disposons de ce temps, frères et sœurs, profitons-en. Continuons à avancer. Efforçons-nous, soyons patients et allons de l'avant. Et surtout, mettons-nous au travail.